Bonsoir. Après les auditions des quelques membres du conseil d'administration de la GECAMINE, l'inspection générale des finances a adressé jeudi 16 novembre 2023 une lettre à la ministre du portefeuille contenant les conclusions de son enquête sur les dossiers de détournement de plus de 10 millions de dollars dans cette entreprise. Selon l'IGF, il s'agit d'un cas flagrant de malversation financière commise au moyen de la violation des statuts de la GECAMINE. La gravité des faits mérite des mesures à l'encontre de leurs auteurs individuellement et collectivement identifiés, conclut l'IGF dans cette correspondance. Certaines ONG ont dénoncé cette attitude des membres du conseil d'administration de la GECAMINE et n'attendent que les mesures conservatoires soient prises par la ministre du portefeuille. Pour rappel, c'est l'IGF qui a tiré la sonnette d'alarme sur le partage des 10 millions de dollars venant de Simco, la filiale de la GECAMINE, entre 27 personnes de cette entreprise minière, en faisant fi de toutes les règles de bonne gouvernance. Quelle est surfaire des conclusions de l'IGF? Comment faut-il renforcer la lutte contre la corruption en RDC? Nous en parlons ce soir dans Dialogue entre Congolais avec Dionit Kaninda, conseiller en communication à l'inspection général des finances, IGF en sigle, Dionit Kaninda, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Dieudonné Mouchagaloussa, avec nous dans ce studio, porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme en RDC. Dieudonné Mouchagaloussa, bonsoir.
Bonsoir, je voudrais préciser que je suis également coordonnateur du panel des experts de la société civile.
Merci Dieudonné. Et Emmanuel Umpula, directeur exécutif de l'Observatoire africain des ressources naturelles, une organisation membre du réseau Le Congo n'est pas à vendre. Il est aussi expert de la gouvernance des industries extractives. Emmanuel Umpula, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs.
À Kinshasa, vous nous suivez sous la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, Canal Plus, Channel 572, DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Le dossier des détournements de plus de 10 millions de dollars à la GECAMINE est suspendu aux décisions que devra prendre la ministre du portefeuille, Adèle Kaïnda. Selon plusieurs ONG de lutte contre la corruption et en tant que ministre des tutelles, les conclusions de l'enquête et des auditions menées par l'inspection générale des finances lui ont été envoyées pour des mesures conservatoires à l'égard de tous ceux qui ont indûment bénéficié de cet argent de la GECAMINE. Merveille Hassani nous en dit plus.
Selon les indiscrétions de sources proches du dossier, les conclusions de l'enquête menée par l'IGF et les auditions qui s'en sont suivies démontrent l'opacité avec laquelle les conseils d'administration de la GECAMINE a utilisé plus de 10 millions de dollars en les partageant, faisant fi des besoins réels et urgents des sociétés minières. Cette affaire a également provoqué une grogne au sein du Parlement congolais. En effet, un groupe de députés nationaux avait interpellé le gouvernement en vue d'obtenir des sanctions à la contre des incriminés dans le détournement de plus de 10 millions de dollars américains de la CIMCO. Hormis les sanctions, ces élus proposaient aussi que le gouvernement prenne des mesures à titre conservatoire contre les auteurs de ces détournements, tout en insistant pour que les coupables répondent de leurs actes devant la justice avant la tenue des élections du 20 décembre prochain. Le dossier des détournements de plus de 10 millions de dollars à la GECAMINE est suspendu aux décisions que devra prendre la ministre du portefeuille Adèle Kaïnda. En tant que ministre de tutelle, les conclusions de l'enquête et des auditions menées par l'IGF lui ont été envoyées pour des mesures conservatoires à l'égard de tous ceux qui ont indûment bénéficié de cet argent de la GECAMINE. Rappelons que c'est le vendredi 10 novembre que l'IGF a débuté les auditions sur ces dossiers du virement de 10 millions de dollars des CIMCO à plus d'une vingtaine de personnes mandataires au cadre consultant de GECAMINE.
Merci Merveille Hassani pour tous ces détails. Dionit Kaninda, je rappelle que vous êtes conseiller en communication de l'inspection générale des finances IGF en sigle fin octobre 2023. Dans une note d'information transmise à l'IGF par un inspecteur des brigades plusieurs hauts cadres de la GECAMINE, dont l'actuel président du conseil d'administration a été accusé d'avoir orchestré les détournements de plus de 10 millions de dollars américains appartenant à la CIMCO, la société immobilière du Congo, détenue à 99% par cette entreprise étatique. Quelques jours après, IGF est descendu, je pense, sur place pour mener des enquêtes par rapport à cette rumeur de corruption qui courait. Et dans votre rapport, vous avez estimé qu'il y a eu effectivement détournement de plus de 10 millions de dollars à la GECAMINE. Une note a été envoyée à la ministre du portefeuille le 16 novembre dernier. Malheureusement, cette note, on la retrouve dans tous les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Alors, comment avez-vous mené cette enquête ou cette audition auprès des cadres de la GECAMINE qui sont cités dans ce dossier?
Merci, madame, pour la question. Il faut d'abord préciser que le travail de lutte contre la corruption et les détournements dans notre pays est une volonté ferme de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est aujourd'hui exécuté par l'Inspection Générale des Finances à travers une mission importante qu'on appelle la patrouille financière, qui consiste à examiner tous les actes de gestion de ceux qui ont le pouvoir de manipuler les fonds publics. C'est comme ça que dans ce sens, l'Inspection Générale des Finances a dû mener ses enquêtes à travers, bien sûr, les inspecteurs des finances qui sont aujourd'hui les gendarmes financiers pour tous les cas de détournement. Sur les terrains, les inspecteurs des finances sont munis d'un ordre de mission qui spécifie les termes de leur travail au sein d'une entité qui est appelée à être auditée ou à être contrôlée. Alors, les missions se font en deux temps, ça peut être une mission d'encadrement ou une mission de contrôle. Alors, pour ce cas, il s'agit bien sûr d'une mission de contrôle. Et par rapport à cette mission de contrôle, les inspecteurs des finances ont bel et bien trouvé qu'il y avait des faits avérés de détournement des fonds publics, parce que les mandataires publics de cette entité se sont tapés 10 millions de dollars américains qui sont partagés au détriment des intérêts de l'entreprise. Donc, c'est un travail qui s'est fait au niveau des inspecteurs sur le terrain. Après, il y a une étape qu'on appelle l'étape de confrontation. On appelle les concernés qui passent par l'audition. On les entend et on confronte le travail qui a été fait sur le terrain par les inspecteurs et finalement l'IGF tire ses conclusions. Et ces conclusions sont déposées auprès du président de la République, de qui dépend directement l'Inspection générale des finances, et si le cas le demande, auprès des autorités compétentes, des autorités habilitées, pour pouvoir prendre des mesures conservatoires, ou alors le dossier peut être transmis directement au parquet pour que ceux qui ont bénéficié de ces fonds puissent répondre de leurs actes devant les instances.
Dionit Kaninda, après le rapport de l'IGF, il y a le panel d'experts de la société civile, d'ailleurs qui est avec nous dans ce studio, le président, le coordonnateur ou président de ce panel avec nous dans ce studio, qui a balayé du revers de la main la thèse de l'IGF sur le détournement des 10 millions de dollars à la GECAMINE. Cette structure l'a fait savoir dans une déclaration intitulée « L'IGF, un instrument pour la bonne gouvernance, une machine de règlement des comptes ». Certaines personnes pensent que vous êtes là pour régler des comptes à certains compatriotes.
Madame, vous savez, lorsqu'on parle, j'ai toujours aimé l'illustration donnée par l'inspecteur général des finances, chef de service. Il dit, les détourneurs ont le même comportement que les petits voleurs que nous voyons dans nos marchés, le marché qu'on appelle communément chez nous, Zando. Lorsque vous l'attrapez, la main dans le sac, le premier réflexe est de dire, ce n'est pas moi, je n'en sais rien, je ne connais pas. C'est le premier réflexe. Mais moi, je voudrais bien que ces ONG qui travaillent normalement pour l'intérêt du public puissent nous dire aujourd'hui où sont passés les 10 millions de dollars américains. s'étaler où ça se trouve. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui? Parce que lorsque les gens passent à l'audition, ils reconnaissent qu'ils ont perçu de l'argent. Et qu'une ONG vienne nous dire que l'IGF est en train de charger les compatriotes pour des règlements de comptes. Je crois que là, il y a un problème de moralité quelque part au niveau de ces organisations qui, à mon sens, ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que lorsque des enquêtes prouvent qu'il y a eu des faits de détournement et que les auteurs sont passés aux aveux et que l'ONG vienne dire que voilà, non, il s'agit des règlements de comptes, c'est simplement pathétique, madame. Simplement pathétique.
Alors, il y a des auditeurs qui saluent le travail de l'IGF, car en fait, ces auditeurs estiment que l'IGF montre la détermination à décourager les criminels en cravate de pouvoir piller ou détourner l'argent de l'État, mais seulement, ils estiment que le travail ne va pas jusqu'au bout. Vous vous limitez à dénoncer, mais après, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de poursuite. On verra ces gens-là laver et puis ils vont continuer à travailler comme si de rien n'était. À quoi ça sert alors de faire ces genres de rapports quand les personnes incriminées ne sont pas poursuivies?
Nous sommes dans un État démocratique, madame, ce qui signifie qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. L'IGF ne peut pas à elle seule contrôler et en même temps sanctionner. Le pouvoir de la sanction revient, permettez-moi la tautologie, au pouvoir judiciaire. Il y a des instances judiciaires qui sont habilitées à pouvoir sanctionner les faits infractionnels. L'IGF, son travail est de pouvoir trouver oui ou non il y a eu des cas de fraude, des cas de détournement, des cas de corruption. Ça, c'est le travail de l'IGF parce que vous savez que la compétence est d'attribution. La compétence de poursuivre les criminels économiques, ceux qui bradent les intérêts du peuple congolais, ce pouvoir-là revient à la justice. C'est pourquoi l'IGF, tout le temps, est en train de crier pour qu'il y ait dans ce pays ce qu'on appelle les parquets financiers. C'est ce parquet-là qui pourra, dans les jours à venir, si cela arriver à se concrétiser, à démontrer avec beaucoup d'éloquence et avec beaucoup de fermeté les cas de détournement. Parce que, madame, regardez, les gens, les compatriotes qui disent le droit aujourd'hui, les magistrats, c'est des personnes qui sont spécialisées dans l'analyse des faits infractionnels dans la société. Mais en ce qui concerne les détournements, c'est des questions économiques, c'est des questions de finances, c'est des questions de fiscalité qui ne peuvent pas forcément être à la portée des magistrats, de tout magistrat. Mais si nous avons un parquet financier, celui-là permettra au moins d'avoir des magistrats qui sont outillés dans le domaine de l'économie, dans le domaine de fiscalité, dans le domaine des finances, de gestion, pour que ceux qui mettent la main indûment dans les trésors publics puissent répondre de leurs actes. Donc l'IGF s'arrête à son travail, qui est celui d'encadrer, celui de contrôler. Après, il revient aux instances judiciaires de pouvoir poursuivre ceux qui sont pris la main dans les sacs.
Dieudonné Mushagalusa, porte-parole du consortium des ONG des droits de l'homme en RDC et président coordonnateur du panel d'experts de la société civile. Vous avez balayé du revers de la main les rapports de l'IGF sur le détournement des 10 millions ou les conclusions de l'IGF sur le détournement des 10 millions de dollars à la GECAMINE. Pourquoi? Parce que vous venez de suivre Dionit Kaninda qui dit que les personnes concernées ont avoué avoir perçu cet argent.
Bon, voilà. Merci beaucoup, madame. Je voudrais saluer mon frère Jeannette Kanyinda, que je connais. Jeannette Kanyinda, que je connais très bien, mais je ne le retrouve pas parce qu'il n'a pas sa, comment il faut dire, son éloquence que je connais quand il défend un dossier. Vous comprenez qu'il est parti seulement dans des théories d'ordre moral, mais il n'a pas touché les points en termes de faits, en termes d'approche, en termes de stratégie. Ce dossier, madame, nous l'avions aussi documenté, nous nous sommes renseignés. Il s'agit du dossier d'un sensationnel. Ça veut dire quand on parle de 10 millions de dollars, tout le monde va sursauter. Non, on a bouffé, on a détourné 10 millions de dollars. Mais qu'en est-il au juste? C'est un dossier qui date de juin 2022, avant l'avènement du comité actuel qui n'a été nommé qu'au mois de mars par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est un dossier de juin 2022, avant l'avènement de l'équipe dirigée, je crois, par Luka Mankunzi, si je ne m'abuse pas. Donc, nous avons essayé de documenter, voir l'origine, voir comment ça était. Il s'agit d'un dossier où on a fait un recouvrement d'un montant de 211 millions de dollars. Il y a une société qui ne payait pas de dividendes à la Gécamines depuis que la Gécamines existait. Mais il y a cette innovation, il y a ces démarches, il y a cet encouragement, il y a cette volonté de pouvoir rappeler à cette société de pouvoir payer les dividendes à la Gécamines via la société Simco d'une somme de 211 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors qu'on avait recouvert, qu'on avait fait le recouvrement, s'il faut dire en termes clairs, de cette somme-là, les mécanismes institutionnels de la Gécamines, les instruments juridiques de la Gécamines, mais au-delà des instruments juridiques, tout ce qu'il y a dans l'administration de la Gécamines, même les lettres du ministre des Mines prévoient la gratification des personnes qui ont travaillé sur un dossier. Il est connu de tous, même...
C'est donc une gratification, oui, selon vous?
Non, pas selon moi, il s'agit d'une gratification.
10 millions de dollars?
J'y arrive, madame. On a fait un recouvrement de 211 millions de dollars. La Gécamines était en difficulté de payer, de couvrir certaines charges, notamment liées au paiement des frais qu'ils devraient payer à la DGRAD, qu'on devrait payer dans d'autres taxes, et la Gécamines a profité de l'occasion, parce qu'elle était en difficulté, de pouvoir régler à l'État congolais une somme de 71 millions de dollars. Ça, Ginette Kang n'en parvient pas à le dire. Il y a les dividendes qu'on a tirés dans ces dossiers, et dès lors qu'on a tiré les dividendes dans des dossiers, les conseils d'administration s'est réunis en bonne et due forme, prenant tous les instruments juridiques qu'il faut prendre, conformément au texte, comme je viens de le dire, et on a fait la traçabilité. Donc, il ne s'agit pas d'un détournement, madame.
Le problème, madame, deux versions différentes, là.
Oui,
millions de dollars de gratification, c'est quand même énorme.
Effectivement, je vais y arriver. On trouve énorme, effectivement, c'est sur ces chiffres qu'on est en train de jouer. Mais si vous prenez 10 millions par rapport à 211 millions qu'on a recouvert, qu'on a eu à faire le recouvrement, c'est quel pourcentage? Calculé en termes de pourcentage, c'est là où l'IGF est en train de pêcher par les sensationnels, par la manipulation, par l'intox dans l'opinion. J'assume et je l'ai dit, c'est clair. C'est-à-dire qu'on utilise seulement les montants de 10 millions de dollars pour dire qu'il y a eu détournement, mais il s'agit d'une gratification. C'est-à-dire qu'on doit d'abord corriger les termes. Et j'aimerais que mon frère Ginette puisse me rejoindre sur cela parce que c'est un intellectuel, un journaliste bien formé. Et comment ça s'est fait? Il y a eu la traçabilité dans cette somme-là. Il n'y a pas eu détournement. On a viré l'argent dans des comptes de personnes concernées en bonne et due forme. Et ces personnes-là ont payé l'impôt sur cet argent-là. Un détourneur peut payer l'impôt sur l'argent qu'on lui a donné de gratification.
Vous avez les preuves,
Bien sûr. Non, madame, je ne peux pas aller sur cette chaîne avec tout le respect que je vous dois et l'honneur que vous m'avez toujours fait pour venir parler de n'importe quoi. Donc, on a fait la traçabilité de cette somme et ça n'a jamais été détourné. Il faut qu'on puisse faire la différence des choses. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, d'ailleurs, le même Ginette vient de le dire, que la séparation du pouvoir. D'où l'IGF tire les prérogatives de pouvoir qualifier la gratification du détournement. Parce que ce n'est pas de son ressort. J'aimerais que Ginette puisse me le dire. J'aimerais que l'IGF Alinguette puisse me le dire. Les détournements ne peuvent être qualifiés par celui qui est habilité à qualifier l'infraction. Comment l'IGF peut s'arroger les prérogatives de qualifier ça de détournement alors que ça n'a pas encore été établi? Parce que Ginette vient de dire que cela rentre dans le cadre de séparation du pouvoir. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, madame, où il faut prendre ce dossier au sérieux. Il y a un problème d'acharnement contre l'équipe actuelle parce que dans ce dossier, non, laissez-moi crever l'abcès. Dans ce dossier, il y a 27 personnes qui sont concernées. Mais on n'a pas auditionné toutes les 27 personnes. Il y a des personnes qui ont été mises à l'abri d'être auditionnées, d'être écoutées, parmi lesquelles il y a un collègue, un ancien collègue à Gilles Alinguette quand il était conseiller à la primature. Et je peux les citer si vous voulez. Je peux les citer et Ginette ne va pas me les contredire. Donc, cette personne ne l'a pas cité. L'actuel secrétaire général, avant d'être avocat, il n'a pas été auditionné. Donc, vous voyez que c'est un dossier que l'IGF est en train d'utiliser dans la manipulation
pour un règlement des comptes. C'est pourquoi nous avions dit que l'IGF n'est plus un instrument de la bonne gouvernance, mais une machine de règlement des comptes. Quand vous prenez autant d'éléments, déjà, comme je viens de vous dire, la traçabilité sur cet argent, quand vous prenez les qualificatifs, il ne s'agit pas d'un détournement, mais il s'agit de la gratification. Quand vous prenez le favoritisme, où on a écarté certaines personnes, Ginette connaît bien, il y a parmi eux un qui était collègue de l'IGF Falinguette quand il était conseiller à la primature. Si on veut,
il n'a pas été auditionné, celui-là.
Il n'a pas été auditionné. Le secrétaire général de la GECAMINE, il n'a pas été auditionné parce qu'il est avocat, mais lorsque les faits sont déroulés, il n'était pas encore avocat. Où est-ce que l'IGF peut amener l'opinion dans la manipulation? Donc, si on doit faire les choses bien, et c'est là, nous, comme panel des experts de la société civile, comme consortium des ONG des droits de l'homme, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Si on doit faire des choses, il faut le faire en termes d'équité, en termes d'éthique, en termes d'égalité, en prenant les choses dans la manière dont il faut le prendre.
Merci, Dieudonné Mouchagrelous. On va vous redonner la parole. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. Vous aurez le temps d'en parler. Dionit Kaninda vient de nous rejoindre. Il va faire son entrée dans ce studio. Pendant qu'il va entrer dans ce studio, on va donner la parole à Emmanuel Oumpoula, qui est directeur exécutif de l'Observatoire africain de ressources naturelles. Et, c'est une organisation membre du réseau Le Congo n'est pas à vendre. Il est expert de la gouvernance des industries extractives. Emmanuel Oumpoula, votre lecture de la GECAMINE.
Oui, merci madame. Je pense que je vais commencer par donner un petit contexte de quand on a libéralisé le secteur minier congolais, on a vu que les sociétés du portefeuille de l'État ont signé des partenariats, notamment la GECAMINE. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là n'étaient pas en mesure de s'autofinancer pour relancer leurs activités. Et si on refait un état des lieux, de 2002 à aujourd'hui, presque toutes les sociétés sont en difficulté.
On a un souci avec votre ligne téléphonique, Emmanuel Oumpoula. Nous n'arrivons pas à bien vous saisir. La réalisation va essayer de vous rappeler hein, pour voir comment améliorer votre ligne téléphonique. Alors, Dionit Kaninda, vous venez de nous rejoindre. Vous avez suivi Dieudonné Mouchagrelous qui parle des règlements des comptes de l'IGF. Vous n'avez pas bien fait votre travail. Il s'agit plutôt, il n'y a pas eu détournement, mais plutôt cette somme. C'était une gratification au comité de la GECAMINE pour le travail qu'ils ont fait.
Merci beaucoup, madame. J'aimerais bien que mon ami puisse vous dire, dans la nomenclature des avantages qui sont dévolus au mandataire public, où est-ce qu'il situe ces 10 millions de dollars. S'il peut répondre à cette question-là, alors on va parler de ce qu'il appelle... de l'acharnement ou... Non, madame. La question de lutte contre la corruption et le détournement, c'est une question qui doit préoccuper tout celui qui s'appelle intellectuel. Parce que le plus grand ennemi du développement de ce pays, c'est l'intellectuel congolais. L'intellectuel congolais, avec son français, avec ses mathématiques, il peut bien tourner autour des chiffres pour vous démontrer que voilà, moi je suis innocent. On a vu, on a suivi ici des procès en direct, on sait de quoi on parle. Mais ici, la question est de pouvoir dire aux Congolais, droit dans les yeux, en les regardant, comment est-ce que quelqu'un peut arriver à débloquer 10 millions de dollars, madame? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui en ce moment étudient sous des arbres parce que simplement, il manque 500 000, 300 000 dollars américains pour construire une école. Alors qu'il y a des individus qui se tapent 10 millions de dollars américains et qui pensent que, voilà, parce que ils sont, je ne sais pas moi, de quelle planète, ils ne peuvent pas être poursuivis. Et lorsque on essaie de diligenter des enquêtes, on dit que c'est de l'acharnement. Il ne s'agit pas
de
l'acharnement.
Pourquoi vous n'allez pas voir du côté du ministère des Mines, puisque c'est le ministère des Mines qui a donné, qui a loué cette somme aux membres du comité de gestion de la GECAMINE, selon les experts, les panels d'experts de la société civile?
Madame, est-ce que lorsque vous voulez attraper un voleur, vous allez attraper celui qui détient le bien ou celui qui lui a donné. Vous commencez par celui qui détient le bien, parce que c'est lui qui est le bénéficiaire final, c'est lui. Et l'inspection générale des finances, oui, remonter, ça c'est une autre paire de manches, mais qui ne revient pas à l'IGF. Le parquet existe pour cela. L'IGF regarde l'entité contrôlée, pour le cas d'espèce, qui est la GECAMINE. Est-ce que les 10 millions de dollars américains a atterri à la GECAMINE, oui ou non? Oui, les fonds ont atterri, bel et bien, à la GECAMINE. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont touché à l'argent, oui ou non? Oui, il y a des gens qui ont touché à l'argent. Ils sont là. Et ces gens-là,
vous n'avez pas cherché à savoir d'où est venu cet argent?
Mais l'argent, lorsque ça vient, vous dites non, voilà, il faut remonter au ministère des mines qui a attribué. Non, madame, je crois que nous ne pouvons pas inverser la tendance en voulant chercher quelqu'un qui ne détient pas. Le travail de l'IGF, c'est de voir qui a touché au fond de l'État. C'est ça. Que vous soyez d'une entité étatique ou non, si vous avez touché au fond de l'État, en ce moment-là, l'IGF vient vous contrôler, l'IGF vient encadrer. Et pour le cas d'espèce, ces mandataires ont touché à 10 millions de dollars américains.
Est-ce que les 27 personnes citées ont été auditionnées? Selon les panels des experts, il y a des gens qui n'ont pas été auditionnés parce que proches de l'IGF.
Madame, si les gens décident de s'exclure, que voulez-vous que l'IGF fasse? Ceux qui ont été invités, ils ont tous été invités. Mais lorsque certaines personnes ne viennent pas répondre, qu'est-ce que vous voulez que l'IGF fasse?
Vous faites quoi? Vous laissez passer?
Mais dans ce cas-là, on transmet le dossier au parquet. Et c'est ça qui s'est fait. S'ils ne peuvent pas répondre devant l'IGF, ils vont répondre devant le parquet.
Donc toutes les personnes qui n'ont pas été auditionnées vont répondre devant le parquet?
Toutes les personnes concernées vont répondre de leurs actes, madame. Personne ne sera épargné.
Emmanuel Mpala, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame.
Alors, la qualité s'est améliorée, on vous écoute.
Oui, je disais que j'ai donné un peu le contexte du fait qu'on a libéralisé le secteur et toutes les entreprises du portefeuille de l'État ont signé des partenariats avec l'idée de pouvoir relancer leurs activités. Et l'argent viendrait des partenariats que ces sociétés-là ont signé, et notamment la GECAMINE. Vous allez vous rendre compte que depuis que nous avons libéralisé, si vous prenez de 2002 à aujourd'hui, toutes les sociétés du portefeuille de l'État sont en difficulté. Et l'une des raisons est la mauvaise gouvernance. Il y a plusieurs plans qui ont été présentés de relance, mais malheureusement n'ont jamais été mis en œuvre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous savez que beaucoup de travailleurs de la GECAMINE qui ont travaillé pour cette société ont été mis à retraite, d'autres ont été remerciés sans avoir à être suffisamment payés comme il le faut, parce que tout simplement on a dit que la société était en difficulté. Et si vous êtes à Colombie, vous pouvez voir, à Colombie, à Lubumbashi, vous pouvez voir comment les agents, les anciens agents de la GECAMINE sont en train de manifester pour réclamer leurs droits. Et donc ça, c'est juste pour vous donner un peu de contexte. Maintenant, revenons au sujet des 10 millions de dollars. Je pense que je peux commencer par donner les références, quelques références qui montrent que qui interdit aux mandataires de l'État de pouvoir, en dehors de leurs sommes qui sont dues conformément à la loi, d'avoir d'autres paiements en dehors de ça, y compris les primes. Je vais vous citer les codes pénales congolais interdits, les codes pénales, les décrets de 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, interdits formellement aussi. On peut aussi lire les décrets portant statut de mandataire de l'entreprise publique. Donc, quand on essaie de regarder toutes ces dispositions-là, nulle part, il est reconnu au mandataire de l'État de se faire payer en plus de ce qu'il reçoit. Dans le cas de 10 millions de dollars, pour nous, en tant que Congo n'est pas en vente, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale parce que même moralement, ça ne se justifie pas. Même moralement, ça ne se justifie pas. Pour une société qui est en difficulté, de payer des gens qui ont travaillé, de relancer sa production, que au nom, je ne sais pas de quelle loi, quelques personnes, parce qu'ayant fait leur travail, parce que ces personnes-là sont payées par l'État congolais, sont payées par la Gécamine, se disent, c'est payé des primes parce qu'elles ont recouvré un montant de 200 à 11 millions de dollars. Pour moi, c'est immoral. Ce n'est pas soutenable. Il n'y a aucune disposition en termes de loi qui soutient ces paiements. Et c'est pourquoi nous allons dans la logique de dire que ces gens-là devaient rendre des comptes. L'IGF a fait son travail et que les institutions qui doivent intervenir pour prendre des décisions doivent faire leur travail. Et pour mettre fin à cette mauvaise pratique où les gens qui travaillent au nom de l'État se font encore payer en plus de ce qu'ils reçoivent. Nous savons déjà ce qu'ils reçoivent en termes de paiement. C'est énorme. Ils n'ont pas ces privilèges, les privilèges qu'ils ont de recevoir ces paiements-là, qui sont déjà énormes, et qu'en plus, sans aucun fondement, que ces gens-là se fassent payer autant d'argent. Si nous voulons comparer 10 millions de dollars, ça peut payer combien d'anciens agents de la Gécamine qui ont travaillé pour cette société? Ça peut construire combien d'écoles dans notre pays? Si on fait, en termes de comparaison, selon les normes de la BCECO, avec 150 000 dollars, on peut construire une école de 6 classes. Et ça peut faire combien d'écoles? Et on a vu dans d'autres pays où, avec 5 millions, on a créé des unités de traitement. On a créé toute une entreprise avec cet argent-là. Donc, je pense que je suis tout à fait d'accord avec l'inspecteur de l'IGF que on ne peut pas tolérer que des gens se fassent payer de l'argent de l'État sans avoir aucun fondement juridique.
Dieudonné Mouchagalou, sa réaction. Aucun fondement juridique, aucune disposition légale.
Non, je crois mon frère qui venait d'intervenir, je vais lui envoyer tout l'arsenal juridique qu'il faut entasser. Donc c'est tout à fait légal. Il y a des éléments quand il prend, par exemple, l'article 4 de la loi numéro 08/007. 17 juillet 2008, il peut trouver des éléments. Je n'ai pas l'état de lire tous les éléments, mais madame, il y a un arsenal juridique quant à ces
qui précise qu'on peut gratifier.
On peut faire la gratification, il y a même la lettre, je venais de le dire, l'instruction du ministre des Mines qui est... donc,
mais est-ce que vous-même, vous ne trouvez pas ça immoral, scandaleux, non, en plus du salaire qu'ils ont déjà gratifié ces personnes
effectivement, madame, c'est sur cette corde dissensationnelle qu'on est en train de jouer. C'est-à-dire qu'on est en train de voir une face et on oublie l'autre face. Si l'équipe n'avait pas fait bien le travail, on n'aurait jamais 211 millions de dollars. Ça, on oublie de le dire à l'opinion publique. Et mon frère Ginette le sait très bien. Donc, on est en train de voir un côté, on oublie un autre côté. Si les travailleurs, si ceux qui étaient dans cette commission n'avaient pas bien fait ce travail, la Gécamine n'aurait jamais versé 71 millions de dollars à la DGRA d'aujourd'hui. On oublie de donner cet élément. Et donc, par contre, si vous êtes dans la rationalité, si vous êtes dans ce qui est juste, si vous êtes dans ce qui est compréhensible, on devrait par contre féliciter cette équipe. En réalité, c'est ça, parce qu'ils ont fait l'entrée qu'ils ont fait au niveau de la société. Mais ça, on oublie de dire. Deuxième chose que je suis en train de condamner, madame, c'est cette disposition de deux poids, deux mesures. On arrive à auditionner les uns, on arrive à laisser les autres. Je viens de donner...
Ils ne se sont pas présentés.
Voilà, ils ne se sont pas présentés, parmi lesquels un ancien collègue conseiller à la primature de l'IGF, Gilles Alinghetti. Je crois que Ginette le connaît très bien, et je venais de parler secrétaire général. Bon, s'ils ne sont pas arrivés à se présenter, l'IGF n'a pas été en mesure de faire la traçabilité de ça. Je venais de vous dire ici qu'il n'y a pas eu opacité dans la traçabilité de cet argent, parce que les personnes n'avaient même pas besoin de l'avouer. Parce que l'argent a été viré dans des comptes en bonne et due forme. Vous avez déjà vu un voleur ou un détourneur qui va mettre l'argent en compte par la traçabilité.
comptabilité et payer l'impôt sur cet argent. C'est là où se trouve le problème. C'est-à-dire, les gens sont dans le sensationnel au lieu de prendre ce qui est rationnel, ce qui est juste, ce qui est compréhensible et ce qui est des droits. Ça, c'est un élément. Deuxième élément par rapport à l'IGF, pour montrer que c'est un acharnement. Je venais de montrer autant d'éléments là. Ginette, il est là, comme il vient d'arriver, qu'il me dise d'où l'IGF tire les prérogatives. Même la Constitution interdit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais l'IGF, comme a des comptes à régler aux gens, il met toute la publicité, il appelle tous les journalistes possibles, il met tous les moyens dans la communication pour pouvoir salir l'honneur de certaines personnalités, alors que même dans ces dossiers au niveau de la Gécamine, madame, vous savez que l'IGF, en date 17 juin, si je ne m'abuse pas, il venait de faire un ordre de démission où lui-même veut se faire consulter à la Gécamine. Donc, je ne sais pas si Ginette connaît ça. Je vous l'informe et c'est vrai. Personne ne va me le contredire. Donc, vous voyez qu'il y a un dossier qui est vraiment une imbroglio totale où l'IGF cherche à régler des comptes, où il veut se faire cacher derrière certaines choses. Et c'est ce que nous dénonçons. Et donc, l'IGF fait un mensonge cousu, même auprès du président de la République. Malheureusement, je l'ai toujours dénoncé. Je l'ai dit, on n'a pas de contre-service. L'IGF lui-même, l'argent qu'il prend comme des recouvrements, là où il fait des recouvrements, on lui donne 10%. L'IGF a-t-il déjà rendu compte au public de ce qu'il fait des 10% qu'on lui donne? Si Ginette n'a pas d'éléments, je peux lui citer la société qui a trait avec Gécamine, où il a perçu 10%. Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc voilà autant d'éléments qui nous choquent et qui nous disent que les choses doivent se faire par éthique, par équité et en tenant compte des instruments juridiques et des mécanismes appropriés. Dès qu'on s'écarte de ces mécanismes-là, madame, nous allons crier haut et fort jusqu'à ce que les choses rentrent sur la droiture, jusqu'à ce que les choses se fassent d'une bonne manière.
Merci Dieudonné. On va lire quelques réactions des auditeurs. Il y a Kassanga qui dit ceci: le détournement des fonds dans notre pays sont devenus monnaie courante. La présente conclusion de l'IGF sur le détournement à la Gécamine est à saluer et à encourager, malgré parfois la faiblesse de cette agence de contrôle d'enquêter sur certaines personnalités politiques exerçant dans les institutions de l'État soupçonnées de délinquants. Financière, l'IGF devrait donc commencer à faire son travail en toute impartialité et la justice devrait également punir sérieusement les voleurs de l'argent de l'État au lieu de les enfermer aujourd'hui et les faire sortir des prisons demain. Dionit Kaninda, cet auditeur vous demande, il encourage le travail que vous faites, mais insiste sur l'impartialité. L'IGF devrait être impartial.
Merci beaucoup, madame. Vous savez, c'est facile d'affirmer des choses sur un plateau prestigieux comme celui de la radio Capi.
Il dit qu'il a des preuves. Hein?
Oui, je crois que ces preuves-là, il pourra bien les brandir jusqu'au bout de sa logique.
Bien sûr.
Et aussi, il faut toujours s'interroger sur les financements de nos organisations non gouvernementales, les ONG. Il faut toujours s'interroger. Lorsque vous voyez une ONG monter au créneau, il faut toujours s'interroger sur ses sources de financement. Comment cette ONG la vit? Elle vit de quoi? Et ici, je crois que mon co-débatteur est en train de remettre en cause les textes légaux. L'IGF bénéficie d'un pourcentage qui est reconnu par les textes l'instituant. Et nous ne pouvons pas ici, venir sur un plateau comme ça, venir dire non, voilà, l'IGF bénéficie des pourcentages et il veut en priver à d'autres. Non. Les avantages des mandataires, madame, il a voulu citer des textes légaux qu'il a. Moi, j'aimerais bien, pour l'intérêt de nos auditeurs, qu'ils nous lisent cette disposition qui donne les prérogatives ou le droit aux mandataires publics en dehors du décret-loi portant avantage des mandataires publics qui détale le barème des avantages des mandataires publics, qu'il nous lise ces dispositions-là qui donnent droit aux mandataires de la Gécamine de pouvoir toucher ces 10 millions de dollars américains. Ça s'appelle prime indue. C'est comme ça que ça s'appelle dans la loi, madame. Et nous ne pouvons pas, dans une question comme celle-là, lorsque vous posez la question à mon co-débatteur s'agissant de l'immoralité de cet acte-là, il banalise. Parce qu'il est acteur d'une ONG, Ils pensent que prendre 10 millions de dollars américains parce qu'on a ramené au trésor public 75 millions ou 200 millions, on peut se taper 10 millions comme ça, alors que l'agent public de l'État a ce qu'on appelle le code de bonne conduite, qui lui interdit de pouvoir user de certaines pratiques. Ça, il ignore en tant qu'acteur de l'organisation non gouvernementale. C'est déplorable. Mais je pense ici que le peuple congolais ne peut pas reculer. Mais par rapport à cet auditeur qui parle de l'impartialité, madame, les enquêtes de l'IGF se font en deux temps, comme je le disais dans l'entente de cette émission. Il y a d'abord le travail qui se fait sur le terrain par les inspecteurs des finances qui vont dans une entité pour contrôler, pour inspecter, pour mener des enquêtes. Et à l'issue de ce travail-là, il y a toujours ce qu'on appelle la confrontation. On vous invite, vous venez, on vous écoute, on vous confronte par rapport à ce qui a été trouvé sur le terrain, vous sortez vos moyens de défense, et à l'issue de cette confrontation, le rapport est envoyé à qui du droit. Mais ici, ce qui se passe généralement, c'est que certains politiques, certains mandataires, ils choisissent de s'écarter carrément de la procédure. Mais lorsque quelqu'un s'écarte comme ça, il s'éclipse. Que voulez-vous que l'IGF fasse? L'IGF s'arrête à démontrer ce qu'il a trouvé sur le terrain et le dossier est envoyé au parquet pour que la personne réponde de ses actes. Mais après, si des gens s'arrangent avec des ONG, les gens s'arrangent avec des communicateurs, des gens s'arrangent avec certains médias pour faire prévaloir, je ne sais pas moi, des droits indus, je crois qu'il appartient au peuple congolais à un certain moment de pouvoir sanctionner ces gens-là avec ce que nous appelons la désapprobation sociale.
Alors, vous avez écrit à la ministre du portefeuille, vous lui avez envoyé une lettre le 16 novembre 2023, c'est pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle prenne des décisions par rapport à ce comité de gestion de la chétamine?
J'ai entendu aussi mon co-débatteur, je réponds à cette question-là, parler ici de la présomption d'innocence. Madame, la convention, parce que les lois sont graduées selon qu'il s'agit du niveau international, national ou local, ainsi de suite. Notre pays a adhéré à des conventions au niveau international.
Voilà.
Et ces conventions-là, depuis un certain temps, demandent à ce que tout cas de corruption et de détournement soit publié. C'est pour décourager le niveau de corruption qui gangrène le développement de nos pays africains et même dans le monde de manière générale. Mais ici, lorsqu'il parle de la présomption d'innocence, s'agissant de ce cas précis, j'aimerais bien qu'il me dise quand est-ce que l'IGF en a fait une publicité. J'aimerais bien qu'il me dise. Parce que ici, vous avez une correspondance qui quitte l'inspection générale des finances pour un autre service de l'État ou un autre portefeuille ou une institution, et cette lettre-là se retrouve dans les réseaux sociaux. Et comment peut-il dire...
Mais comment ça se retrouve dans les réseaux sociaux, puisque ça vient de l'IGF? Sûrement
madame,
que c'est sorti, c'est l'IGF qui a publié ça ou a donné à quelqu'un, et cette personne l'a envoyé dans les réseaux sociaux.
Madame, est-ce que ça sort de l'IGF pour s'arrêter à l'IGF?
Ah donc c'est le ministère qui l'aurait peut-être publié.
Non, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Donc c'est dire que lorsque un courrier part d'une institution vers une autre, c'est des cas aujourd'hui. Vous savez, avec les réseaux sociaux, c'est très facile, madame. La lettre est destinée à la personne Y, et pendant que la personne reçoit le courrier, et on ne sait pas de quelle manière il garde son courrier. On ne sait pas de quelle manière il conserve son courrier. Donc l'IGF n'est pas responsable de comment est-ce que les gens gardent le courrier dans leur bureau. L'IGF n'est pas responsable de ça. Mais lorsque l'IGF mène une enquête et arrive au bout de cette enquête, publie un rapport sur son site, madame, sur son site. Tout ce que l'IGF peut faire, parce que nous sommes dans une lutte contre la corruption et les détournements, qui est un combat que doit s'approprier aujourd'hui tout le peuple congolais. Et ici, je salue mes compatriotes parce que l'auditeur qui venait de parler tout à l'heure est en train de saluer le travail de l'IGF. Il n'y a que les détourneurs et les corrupteurs ou les corrompus qui ne peuvent pas saluer le travail de l'IGF.
Alors, vous n'avez pas encore répondu à ma question par rapport à la ministre du Portefeuille. C'est pour qu'elle prenne des décisions, qu'elle suspende.
Bien sûr, madame. Des mesures conservatoires. En attendant que le parquet,
la justice
fasse
son travail,
il y a toujours ce qu'on appelle des mesures à titre conservatoire qui peuvent se prendre pour permettre à ce que ceux qui sont cités dans ce cas-là ne puissent pas trafiquer un document ou certaines données. C'est des pratiques qui sont d'usage dans l'administration publique.
Alors, il y a Francis qui nous suit depuis Bruxelles, en Belgique. Vous pose à vous, Denis Kanida, la question de savoir qui contrôle l'IGF.
L'IGF est un service public qui dépend directement du président de la République. Ça signifie, du moment que la présidence de la République est contrôlée par la Cour des comptes, cela signifie que l'IGF est aussi contrôlé.
Par la présidence?
Pas par la présidence,
par la Cour des comptes.
Via la présidence de la République. Parce que vous savez que tout ce que l'IGF dispose aujourd'hui vient de la présidence de la République. C'est la présidence de la République de qui elle dépend, dote des moyens nécessaires pour son action. Et la présidence de la République est auditée par la Cour des comptes.
Merci, Yonit Kalinda. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Bukavu. Il s'appelle Aksanti. Ça sera pour vous, Emmanuel Oumpoula.
Je suis Aksanti Chengamou Olivier. Je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. D'entrée BG, il faut noter que les conclusions de l'IGF mettent en lumière un cas de malversation financière et des violations des statuts de la GECAMINE, facteur qui montre un manque de bonne gouvernance et de transparence au sein de l'entreprise. Il est clair que des mesures doivent être prises contre les responsables identifiés, tant individuellement que collectivement, pour sanctionner les actes de malversation financière. Ou enrayer cet état des choses et renforcer la lutte contre la corruption en RDC. Il est essentiel de mettre en place des mesures type de contrôle et de transparence au sein des entreprises et des institutions publiques. Cela implique notamment le renforcement des mécanismes de surveillance et de contrôle, punir sévèrement les acteurs de malversation financière et de promouvoir une politique de transparence et d'éthique au sein des entreprises et de l'administration publique. Il est également important de renforcer l'indépendance des organes de contrôle comme l'IGF, l'Inspection générale des finances, pour leur permettre d'agir de manière efficace et impartiale dans la lutte contre la corruption. Pour couronner le tout, sensibiliser et former les acteurs économiques et politiques à l'importance de la bonne gouvernance et de l'éthique est également essentiel pour lutter contre la corruption.
Emmanuel Oumpoula, comment lutter contre la corruption en RDC?
Oui, merci. Je pense que la corruption, pour nous, le Congo n'est pas avant. C'est l'un des fléaux pour notre société. Et je pense que tout Congolais qui comprend bien le fonctionnement de notre société devait s'engager dans ce combat-là de lutte contre la corruption. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, notre pays essaie de s'armer de tous les mécanismes qu'il faut pour lutter contre la corruption. Et je pense que l'IGF est en train de faire son travail. La Cour des comptes devait entrer en danse et faire son travail aussi, parce que vous savez que ça fait autant d'années que la Cour des comptes n'a pas été en mesure de bien fonctionner. Et nous espérons que ça sera le cas maintenant. Il faudra qu'il y ait aussi des moyens par rapport à la Cour des comptes. L'Assemblée nationale devait aussi multiplier les missions de contrôle. Après, la société civile, les citoyens devaient être engagés pour contre ces fléaux-là qui gangrènent notre société et qui gangrènent surtout nos entreprises. Alors, avant de chuter, je voulais d'abord ajouter deux petits éléments. Le premier élément, c'est que par rapport à l'argent, les 211 millions qui ont été recouvrés, il y avait déjà 15 millions de dollars qui étaient payés par l'ancien comité de gestion au cabinet antillais qui les avait aidés à recouvrer ces montants. Et donc, si vous faites 15 millions plus 10 millions, ça vous fait déjà 25 millions de dollars dilapidés. C'est toute une société qu'on pouvait créer avec cet argent-là. Et puis, je voulais revenir pour lire juste l'article 16 pour l'intérêt de nos auditeurs, qu'ils comprennent pourquoi nous disons que c'est immoral.
L'article 16 dit ceci, il dispose que l'agent public de l'État doit s'abstenir de toute pratique contraire à la morale, à l'éthique professionnelle, notamment la perception des sommes d'argent au titre des salaires ou des primes qui ne sont pas dues ou excédant ce qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur. Donc, vous voyez, déjà, pour moi, en lisant cet article, l'article 16 du code de conduite, il est clair. Et donc, pour nous, je veux dire, nous devons tous nous engager, les médias, la société civile, disons, la société civile, y compris les médias qui font partie de la société civile, les services de l'État, nous devons nous engager dans cette lutte. Et vous comprendrez pourquoi nous, le Congo n'est pas à vendre, nous disons que la corruption tue. La corruption tue, notre société est aujourd'hui en difficulté parce que le fléau le plus répandu, c'est la corruption. Et tous nous devons nous engager et lutter contre la corruption.
Dieudonné Mouchagalou, ça va prendre aussi pour vous ce dernier auditeur qui appelle aussi de Bukavu. Au sud Kivu.
Noé Kérouchi, je vous appelle depuis la province du sud Kivu dans le territoire de Kabari. Nous saluons vivement les rapports nous produits par l'IGF et son travail qu'il est en train d'abattre dans notre pays qui, depuis longtemps, était vraiment piétiné à cause du détournement et de la corruption dans la gestion des biens publics. Nous saluons vraiment beaucoup le travail que l'IGF est en train de nous produire. Cependant, un tel rapport ne doit pas être jeté. Plutôt, la justice doit s'intégrer dedans pour chercher la vérité et que les coupables puissent être jugés selon les lois de la République. Parce qu'il y a des éléments que nous ne devons pas oublier. Ce n'est pas seulement la guerre qui tue les pays, mais il y a aussi la corruption et le détournement des biens publics. On peut terminer la guerre, mais lorsque dans un pays nous avons encore les détournements et la corruption dans la gestion des biens publics, le pays restera toujours au rabais. Rien ne peut avancer. Dans tous les secteurs, rien ne peut aller. Ainsi donc, la justice doit faire son travail dans l'impartialité, sans ingérence politique ou sous une autre nature. Que la justice fasse son travail, mais aussi que l'IGF ait le temps d'étudier et qu'ils produisent des rapports, et si tous les rapports sont produits, que la justice se mette vraiment à son travail, sans ingérence politique, que tout le monde qui pourra tomber dans le détournement ou dans la corruption, dans la gestion des biens publics, qu'il puisse être jugé conformément aux lois de la République.
Très rapidement, Dieudonné Mouchagalou, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Le travail de l'IGF est quand même salué par beaucoup d'auditeurs qui nous suivent.
Je veux me résumer. Effectivement, le travail de l'IGF est salué par beaucoup d'auditeurs que nous-mêmes nous pouvons aussi encourager, mais nous ne cessons de dénoncer les méthodes de l'IGF et la partialité qu'il a dans le traitement des dossiers, et spécialement pour ces cas de 10 millions de dollars. Je venais de le dire, c'est un problème de sensationnel. Parce qu'on parle de 10 millions, si c'était 100 000 dollars, donc ça pouvait passer, on pouvait quand même. Mais quand on parle d'un grand chiffre comme celui-là, je l'ai dit à l'introduction de cette émission, que c'est un dossier du comité passé. Mais on ne parle pas du comité passé qui avait payé 15 millions, entre 15 millions et 10 millions. Donc, madame, je persiste ici. Il s'agit d'un acharnement sur le comité actuel. Il s'agit d'un dossier politique de règlement de compte. Parce que mon frère Ginette venait de le reconnaître lui-même, avec ce qu'Emmanuel vient de dire, où on avait déjà donné 15 millions de dollars à un cabinet, on a laissé ça, mais là où il y a la traçabilité, là où il y a la gratification, là où il y a la transparence de 10 millions, on s'acharne sur ces dossiers, on attaque un président du conseil d'administration qui venait d'être nommé au mois de mars, alors que le dossier date du mois de juin 2022. Donc, il faut avoir autant de subtilités et il n'y a que les grands esprits et les grandes intelligences qui peuvent décrypter que l'IGF fait l'acharnement. Je venais de les
alors, demander. Comment renforcer la lutte contre la corruption en RDC très rapidement?
Oui, on va y arriver.
Pas y arriver maintenant, bon, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Effectivement, il faut traiter sans toute partialité, donc il faut traiter avec l'éthique, il faut éviter de l'acharnement, il faut
traiter avec l'équité, avec l'égalité des dossiers, donc avec justice évidemment, mais il faut éviter de s'arroger les prérogatives et les pouvoirs qui ne sont pas laissés parce que IGF va au-delà de ce qui n'est pas dans ses prérogatives. Et la preuve encore aller sur ces dossiers, c'est qu'il n'a pas même attendu la décision de la Cour des comptes. Est-ce que Genèse peut refuser? Mais donc on comprend qu'il y a un acharnement autour de ces dossiers et il y a un règlement de comptes et probablement qu'il y a des hommes politiques qui veulent régler au comité de gestion actuel de GECAMIN des comptes par rapport à ça et on est en train d'utiliser l'IGF quant à ça. Et donc nous devons dénoncer ces poids de deux poids, deux mesures, on ne peut pas accepter ça.
Merci. Dionysse Kanin, dans votre conclusion.
Madame, nous ne pouvons pas considérer que en plein 21e siècle, quelqu'un nous dit sur un plateau que voilà, le premier voleur, on ne l'avait pas arrêté. Quand vous vous attaquez au deuxième voleur, moi je dois le défendre. Ça ne peut pas se comprendre. Je n'arrive pas à concevoir qu'un artisan d'une ONG vienne sur un plateau pour dire non, comme vous n'aviez pas attaqué le premier là, donc maintenant ne vous attaquez pas au deuxième.
Mais les gens peuvent aussi se poser la question pourquoi le premier comité n'a pas été auditionné, parce qu'ils ont aussi dépensé 15 millions de dollars.
Madame, ces crimes-là de détournement, de corruption, n'ont pas de délai. Demain ou après, à tout moment, on peut vous poursuivre. Mm-hmm. Mais ici, il y a eu un cas de flagrance, il y a eu tollé. Quand vous posez la question à mon co-débatteur sur la notion de l'immoralité, vous avez des gens qui sont en train de gréver. Vous dites que bon voilà, on c'est de l'acharnement, alors qu'on est en train de demander simplement que voilà, dans le barème des avantages dus au mandataire, dites-nous où est-ce que vous trouvez les 10 millions de dollars que vous avez perçus. Vous êtes incapable de les démontrer, mais entre-temps vous parlez de l'acharnement.
Conclusion.
C'est ce que moi je dis. Je pense que madame, ici le peuple congolais doit être veillé. Et même les agents de la GECAMIN doivent rester éveillés par rapport à cette question parce qu'il s'agit de l'argent de l'entreprise. Les mandataires sont déjà mieux payés que ces agents-là. Il est inconcevable qu'ils puissent encore se taper des primes indues sur le dos de l'entreprise. Parce qu'il est temps, madame, qu'aujourd'hui nous puissions changer de paradigme parce que la corruption détruit ce pays.
Merci.
Détruit les entreprises du portefeuille de l'État. Il faut que tous nous puissions nous lever contre cette
phénomène. Merci, Dieudonné Mchagal, plutôt Dionysse Kanin-Da. Emmanuel Mpoula, en 30 secondes.
En conclusion, nous exigeons la restitution de ces primes qui sont tout à fait illégal, exorbitante, indue, perçue par les mandataires de la GECAMIN. Et nous demandons aussi des poursuites judiciaires. Parce que si la justice fait son travail, je pense que ça va corriger les inégalités. Ceux qui n'ont pas été invités le seront certainement pour établir la vérité et que cet argent soit restitué à la GECAMIN.
Merci Emmanuel Mpoula, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.